بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères en islam, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous accepte et nous donne tawfir ce soir pour reprendre ces programmes concernant l'étude des noms d'Allah Azza wa Jal. L'objectif, c'est de mieux connaître Allah, mieux l'adorer, mieux se concentrer ou trouver la concentration dans nos ibadahs, trouver la force nécessaire pour s'éloigner du haram et trouver la dévotion dans nos invocations et créer une relation intérieure avec Allah dans le tawakkul, de la confiance en lui. On ne peut pas avoir confiance en Allah Azza wa Jal si on ne connaît pas l'étendue de son pouvoir. On ne peut pas espérer la clémence et l'acceptation d'Allah si on ne connaît pas l'étendue de sa bienfaisance, de sa générosité, de son karam. Et justement, nous sommes en train de voir, d'étudier, on a presque terminé l'étude du nom d'Allah, Al-Karim, Allah qui est le généreux. Et en étudiant Al-Karim, on doit enchaîner avec Allah qui est Al-Jawad, Al-Jud et Al-Karam. En français, on va dire que ce sont des synonymes. Mais en arabe, il n'y a jamais de vrais synonymes. Chaque mot, chaque adjectif a un sens précis. Et en français, Al-Karam, ça se traduit par la générosité, la bonté, celui qui accorde généreusement. Et Al-Jud, c'est le donateur très généreux. Donc là, on ne voit pas la nuance entre les deux. Mais c'est vrai que ça va dans le même sens, mais il y a chaque nom d'Allah à sa particularité. Juste pour rappel, après avoir vu l'étendue de la générosité d'Allah Azza wa Jal, et le fait qu'Allah donne à qui il veut, à ceux qui l'obéissent, mais également ceux qui ne l'obéissent pas. Allah Azza wa Jal accorde la subsistance à ses serviteurs qui se prosternent 5 fois par jour devant lui. Mais Allah accorde également la subsistance à ceux qui ne se prosterneront jamais devant lui. Parce qu'Allah est karim, Allah est généreux et Allah aime ses créatures. Quand on dit qu'Allah Azza wa Jal aime ses créatures, ça nous permet de nous resituer dans le contexte tragique de ces derniers jours. Lorsque nous avons, Allah Musta'an, il est pénible de devoir à chaque fois reparler des faits d'actualité. Et Alhamdulillah, depuis quelques temps, depuis quelques mois, on était tranquille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis plusieurs mois, il n'y avait plus rien. Lorsque nous voyons une personne qui est dans un supermarché, il prend des gens en otage et il va tuer des personnes et menacer de mort une femme. Et ce gendarme valeureux qui a donné sa vie pour protéger cette personne, on se dit que, subhanallah, il y a une injustice extraordinaire qui est en train de se dérouler avec l'appropriation du titre de l'islam par des juhal, des ignorants, soufaha, des personnes qui sont dépourvues de aql, qui n'ont aucune intelligence, aucun discernement. Et lorsque, dans l'actualité, on avait vu le déroulé, prise d'otage, on lève les mains et dit « Ya Allah, que ce ne soit pas un musulman qui accomplit ce genre de bêtises, ce genre d'exactions. » Et après, on entend que certains auraient entendu « Allahu Akbar, subhanallah. » Mais ce « Allahu Akbar », quoi il l'emmène dans cette action qui n'a… Mais quel lien entre ce crime et une quelconque appartenance à l'islam? Quel lien entre cet acte barbare, cet acte déplorable et profondément lâche et inhumain et une quelconque recherche de contentement divin? Ça n'a aucun sens. Mais malheureusement, il suffit qu'une personne même déséquilibrée mentale se proclame musulman quand il accomplit quelque chose de mauvais comme ça. Déjà, ça a un effet. Ça nous touche, nous, en tant que musulmans, parce que on se dit que ce sont nos valeurs qui sont mises en avant pour accomplir ce genre de choses. Mais après, ce qui ne facilite pas non plus, on pourrait dire, l'évacuation ou la gestion de ce genre de tragédie, c'est tout le travail de reprise qui sera fait par les médias, qui vont en faire un événement national, même si la mort de ce policier, c'est un événement national, c'est une tragédie nationale, mais je veux dire que le fait de continuer à braquer des projecteurs sur l'appartenance religieuse de cette personne et ne pas reconnaître tout simplement que c'était quelqu'un de dément ou autre chose, Allah musta'an, et on n'a pas affaire là à une personne, c'est ce qu'ils disent à l'actualité, qui s'était régulièrement radicalisé, une pratique rigoureuse de l'islam. Vous avez remarqué, ce sont toujours des personnes avec des casiers, je lui dis, expliquez-moi. Du coup, quand il parle de radicalisation, c'est-à-dire une pratique excessive ou rigoriste de la religion, mais est-ce qu'il y a une relation entre pratique de la religion et casier judiciaire rempli comme cette personne? Et comme tous les attentats qui ont été commis ces dernières années, ça a toujours été par des gens qui ont un casier judiciaire. C'est des alcooliques, des vendeurs de drogue, et ainsi de suite. C'est-à-dire que et comment est-ce que le peuple peut accepter ou peut croire que réellement des musulmans font de telles choses, quand ils savent pertinemment que le musulman ne boit pas d'alcool, il ne vend pas de drogue, il n'en consomme pas, et ainsi de suite, il ne vole pas, et ainsi de suite. Et comment est-ce qu'une personne peut avoir un parcours aussi calamiteux en termes de péché, et tout d'un coup se proclamer de telle appartenance et telle appartenance? Nous, dans notre cœur, on est convaincus. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce que cette personne a fait, c'est elle aura des comptes à rendre. Cet homme aura des comptes à rendre pour le meurtre. Parce que le pire des péchés, c'est le meurtre. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que parmi les premières actions à propos desquelles nous serons questionnés, ce seront la salat. Mais les premiers péchés, les premiers crimes qui seront jugés auprès du tribunal d'Allah azza wa jal le jour de Qiyama, c'est ad-dima. Et ce hadith-là, le nombre de fois que je vous l'ai raconté, et à chaque fois je vous le retire ce hadith, c'est parce qu'il y a eu, wallahu a'lam, une tragédie. Le prophète me rappelle que la personne qui a été tuée par quelqu'un de façon injuste se présentera devant Allah Azza wa Jal avec ses plaies saignantes, et pour d'autres, tenir sa tête dans sa main, c'est-à-dire que la personne qui a été, d'accord, on a compris, mutilée, et va dire « Ya Rabb, oh Allah, salhu ». Salhu fi ma qatalani. Salhu, ça vient du verbe sa'ala yas'alu. Sal ou is'al. Oh Allah, demande-lui fi ma qatalani. Pourquoi est-ce qu'il m'a tué? La vie, qui c'est qui donne la vie? C'est Allah. Et la vie, elle est sacrée. La vie, elle est sacrée. La vie dans un être, subhanallah, c'est un être humain. Avant de parler d'être humain, on parle de la vie d'un animal même. Discutez de ça avec une personne récemment. Excusez-moi, je passe d'un sujet à l'autre. On parlait de la tauromachie. Et que c'est quelque chose qui est haram. Le combat des chiens, le combat des coqs, il arrête les laliques, c'est un adat de Qawm et l'autre, des peuples de l'autre. Mais qu'est-ce qui fait que c'est interdit? Parce que les animaux, chaque créature d'Allah a une valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. On n'a pas le droit de demander à des animaux de s'entretuer pour un spectacle. Maintenant, qu'un loup chasse un mouton, une brebis, ça c'est la sunna d'Allah. Allah organise les choses de cette façon. Qu'un être humain coupe un animal, un bœuf, un cabri, un mouton, un poulet pour en manger, c'est parce qu'Allah a organisé les choses de cette façon. Mais lorsqu'on sacrifie l'animal, on le fait uniquement pour manger, pas par plaisir. Chasser par plaisir, ça reste quelque chose d'interdit. Et prendre un animal, ça c'est des masaïl, prendre un animal comme cible, et c'est ce que certains chasseurs font. Maintenant, quand ils chassent, s'ils mangent, le problème ne se pose pas. Mais d'utiliser un animal comme cible pour s'amuser ou comme spectacle, comme c'est le cas de la tauromachie, c'est quelque chose qui est haram. C'est un crime, parce que Allah a mis la vie de cette créature, il y a un maqsad. Allah lui accorde une espérance de vie. Allah lui accorde son rizq, sa subsistance. Retirer sa vie, c'est uniquement pour une nécessité, pour se nourrir. Et quand on le fait, c'est bismillah. Bismillah, par le nom d'Allah, Allah qui donne la vie, par le nom d'Allah, je reprends cette vie avec l'autorisation d'Allah, comme Allah me l'a demandé de le faire, et de la façon qu'Allah me l'a permise de le faire, pour les raisons pour lesquelles c'est licite, c'est jaiz, c'est autorisé. Vous voyez comment est-ce que la vie est importante pour Allah Azza wa Jal, la vie d'un animal, l'histoire de cet homme qui est descendu dans un puits, qui a pris de l'eau pour donner à un chien qui était en train de mourir de soif. Ces histoires sont archi connues, on les connaît, on les a appris nous-mêmes certainement à la madrasa. Ça montre que quand le prophète Sassam avait été interrogé par un sahaba à propos de cette histoire, il dit, ya Rasulallah, même avec un animal on a des récompenses. Le prophète Sassam dit, dans n'importe quel kabid, c'est l'estomac, dans n'importe quel estomac, c'est-à-dire quel que soit l'être vivant, C'est une créature d'Allah et il y a des récompenses si on le nourrit ou on le sauve. Il a réalisé d'Ali. Ça, pourquoi cette analogie? Pour qu'on réalise l'importance d'un animal auprès d'Allah Azza wa Jal. Bon, ça m'a donné des consignes également. Lorsque vous procédez au sacrifice d'un animal, fa'ahsinou, faites-le correctement, rapidement, que l'outil, c'est-à-dire l'outil, le couteau ou autre chose, le sabre soit affûté pour pas que l'animal souffre. La souffrance animale, c'est haram, c'est interdit. C'est-à-dire que là, on a une idée de l'importance de la vie animale. Maintenant, Allah Musta'an, lorsqu'on parle de la vie de l'être humain, là, on comprend que ces personnes, cette personne ou comme d'autres, ben, en fait, c'est des juhal, ignorants. Ils ne savent pas le sens même de la vie. Et on va voir aujourd'hui, si on a le temps, le fameux verset, « Ya yuhannas unna khalaqnakum min dhakarion wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu » Ce verset magnifique qui montre la diversité des peuples, des nations, des civilisations, et qu'Allah nous a créés avec des pratiques, des coutumes, des ethnies différentes. Mais l'objectif, c'est qu'on apprenne à se connaître, qu'il y ait des échanges entre les cultures, entre les races, entre les civilisations. Allah a organisé la vie humaine de cette façon. Allah attend de l'être humain ces rencontres et cet échange de compétences, de connaissances, de muhabba, ce respect mutuel que le prophète a fait vivre à Madina en permettant musulmans et juifs et polythéistes de cohabiter, de vivre en paix. C'est ce qui était prévu, Allah musta'an. Et lorsque donc nous voyons une personne retirer la vie de personnes de cette façon, on se dit qu'il faudrait totalement détacher ce genre de choses au nom même de l'islam. Et qu'Allah Azza wa Jal ait pitié de nous, et qu'Allah protège son dîn, et que, surtout, ne pas se dire qu'à cause de ça, les gens vont se détourner de leur religion. La guidée est dans les mains d'Allah. La guidée, la hidayah, elle est dans les mains d'Allah. Je suis persuadé que l'ensemble de ces actes qui sont accomplis, l'objectif, c'est vraiment d'éloigner les gens de l'islam. Il n'y a rien de astaghfirullah, de spirituel dedans. C'est quelque chose de profondément satanique et négatif. Mais cela n'affectera pas la religion. Cela, non. Subhanallah, pour le Maghreb, un jeune homme vient s'asseoir, il veut me parler, il s'appelle Samuel, avec un super tatouage là, comme les tatouages Samoa, vous connaissez Samoa, avec un grand queue cheval. Donc on voit, c'est un jeune qui bougeait bien, de le move et tout. Il m'a dit, voilà, on m'a dit de me rapprocher de toi, j'habite tel quartier et tout. Et je me suis converti, voilà, j'ai dit depuis combien de temps? J'ai dit 2 semaines. C'est-à-dire que l'ensemble des événements qui se sont déroulés, si on analyse le nombre d'événements, d'actes, entre guillemets, terroristes islamiques, comme qualifiés par les médias, depuis ces 3-4 dernières années, c'est tellement écœurant, c'est tellement effrayant, que normalement, personne ne te fréquenterait. Personne ne fréquenterait quelqu'un qui a une barbe ou une dame qui porte le châle, et personne ne s'intéresserait plus normalement à la religion. Oui ou non? C'est exactement ce qu'ils avaient prédit après les attentats du 11 septembre, et il n'y a jamais eu autant de conversions. C'est-à-dire que les gens se sont dit que c'est pas possible qu'une religion invite vers autant de mal, et les gens se sont mis à lire le Coran, il y a eu un pic de conversion. C'est-à-dire que ce dîn, il est dans les mains d'Allah. La guidée, elle est dans les mains d'Allah. Donc là-dessus, nous, on est tranquille. Mais nos témoignages vraiment de solidarité, c'est extrêmement important à l'attention de ce gendarme qui est décédé et des victimes de cet attentat. Et je viens de voir le mail avant le Isha. Il y a, apparemment, il y a une cérémonie Chantefleurie. Comment ils appellent ça? Le parvis de Chantefleurie, où il y aura un discours, un hommage rendu à ce gendarme qui a été tué. Et il est important de s'y rendre massivement. Pourquoi? Nous, personnellement, pour montrer que notre présence, c'est une condamnation totale de ce genre d'acte, et que nous désolidarisons totalement avec ce que cette personne a pu faire ou ceux qui lui ont demandé de faire telle chose, et nous apportons notre soutien et toute notre solidarité à la personne et aux victimes de cet acte ignoble. Et justement, donc, quand on parle de la karam d'Allah, tout ça parce qu'on parlait de la générosité d'Allah, La personne qui n'obéit pas à Allah une seconde de sa vie, Allah lui accorde quand même la subsistance. Allah lui accorde quand même la santé. Allah lui accorde une famille. Allah lui accorde des enfants. Allah lui accorde la réussite. Parce qu'Allah ne prime personne. Allah ne prédit pas. Allah ne fait pas de mal à ses créatures. Il a les hikmah. Sauf pour une sagesse qu'Allah seul le sait. Et donc, quand on voit comment Allah agit avec ses créatures, comment est-ce que nous, entre nous, nous pouvons penser ou certains peuvent oser avoir de tels comportements. Wallahu musta'an. Parmi les manifestations de la clémence, de la générosité d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'Allah accepte les doigts, Allah te donne ce qui t'est important, mais des fois l'être humain ne pense pas demander certains doigts, Allah te l'accorde quand même, et on avait vu, c'était le dernier hadith qu'on avait vu ensemble avant ces petites vacances, c'est qu'Allah Azza wa Jal, dans le dernier tiers de la nuit, Allah est au ciel de ce dunya, comme cela appartient à Allah Azza wa Jal, kama yaliqu bihi Azza wa Jal, et Allah demande, y a-t-il des gens qui ont des requêtes, des demandes, et Allah exauce. Y a-t-il des gens, hal min mustaghfirin fa aghfiru la? Y a-t-il des personnes qui demandent pardon pour que je leur accorde le pardon? Et Allah demande également, wa maridun, est-ce qu'il y a des personnes malades pour qu'Allah leur accorde la santé? Ça, c'est la générosité d'Allah Azza wa Jal. C'est une porte ouverte, vraiment. C'est à ciel ouvert, on peut demander doua avec conviction, d'acceptation. Et il me semble, on avait vu également le hadith que la personne qui encourage, si on avait vu ensemble ça, un frère touché par une difficulté, un deuil, principalement, Allah lui accordera des habits de lumière et de karam, de générosité, de bienfait le jour de Qiyam. Le hadith qu'on n'avait pas vu encore, c'est le 7e, parmi manifestations de la générosité d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'une personne qui lève ses mains, automatiquement la personne trouve qaboul, trouve l'acceptation de la part d'Allah Azza wa Jal. Le prophète nous rappelle dans le hadith qu'Allah Azza wa Jal éprouve entre guillemets de la honte. Yastahyi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn. Allah a honte. Comme cela appartient à Allah Azza wa Jal, mais c'est un mot que le prophète a utilisé pour que nous comprenions. Allah a honte de ce serviteur qui lève ses mains pour lui demander quelque chose. Allah a honte que ce serviteur rebaisse ses mains et qu'il rebaisse les mains vides. Jamais. Allah accorde toujours à une personne pratiquante, pas pratiquante, pieuse ou pécheur endurci, une personne à orienter son cœur vers Allah. Mais quand on fait doua, je précise et je le rappelle avec insistance, on ne parle pas du doua qu'on fait d'ailleurs l'imam. Parce que quand on fait le doigt derrière l'imam, très souvent il n'y a aucune connexion directe avec Allah. On ne fait que suivre et dire Amin. Et ce qui n'est pas productif. Parce qu'on devient assisté. On ne pense plus à demander le doigt, on pense que l'imam demandera pour nous. Ça ne se passe pas comme ça. Faire doigt en congrégation, c'est quelque chose qui existe. Mais le faire systématiquement et s'y habituer, d'une telle façon qu'on ne demande plus de doigts personnellement, là c'est grave. Parce que la connexion avec Allah, elle transite par les doigts et ce n'est pas pour rien. C'est le prophète qui a dit que doigts ou l'ibad. Les doigts, c'est l'acte d'adoration par excellence. Pourquoi? Ça, on l'explique à maintes et maintes fois. Dans le doigt, tu vois, tu reconnais ta position de créature et la position d'Allah qui est le créateur. Et ton besoin, le fait que tu aies besoin de t'en remettre à lui, de te livrer à lui, de lui adresser tes demandes, et que uniquement Allah peut te connaître, te comprendre et t'exaucer. Donc c'est un lien qui est très fort. C'est un lien de Iyyaka na'bud, d'adoration, le du'a c'est ibada. Et c'est un lien de Iyyaka nasta'in aussi. Pourquoi? Parce qu'on s'en remet à Allah, on trouve, on cherche le secours et le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Il me semble que je vous avais parlé de ce verset lorsque Moussa alayhi salam, si on a vu ensemble, lorsqu'il avait donné de l'eau aux animaux donc de ces deux filles de Shu'aib alayhi salam, et qu'il avait demandé à Allah de lui accorder le bien qu'Allah est capable de lui donner. En commentaire, un des mufassirin, un des contemporains, dit que ça c'est un haut degré de foi lorsque le croyant arrive à se livrer régulièrement à Allah, à se confier régulièrement à Allah, à soumettre ses besoins, ses attentes uniquement à son Seigneur et non pas aux gens. Quels que soient les besoins de ta vie, ben tu en parles à ton Seigneur et tu es persuadé qu'à part lui, personne ne peut t'entendre ni te comprendre et encore moins t'exaucer et t'accorder ce dont tu as besoin. Celui qui vit cette relation intérieure avec Allah c'est vraiment une personne qui a atteint haut degré de foi. C'est quelqu'un qui a été choisi par Allah, parce que Moussa alayhi salam avait cette qualité. Dans toutes les situations, il s'en remettait à Allah. Lorsqu'Allah lui a demandé, idhab ila fir'auna innahu tara, qu'est-ce qu'il a demandé? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'aqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun. Les demandes de Moïse, de Moussa alayhi salam, il les demande à Allah. Alors que, on va pas trop sortir du sujet, même si parfois c'est intéressant, les mufassirin disent, Allah vient de lui accorder deux miracles extraordinaires. La main qui est brillante et, plus fort encore, le bâton. Qui devient Hayyatun Tassa'a, qui devient un serpent gigantesque et rapide, c'était un signe visible de tous. C'est-à-dire que si il forgeait sa confiance sur les Asbab et sur ce qu'il a obtenu, il se serait dit qu'en allant voir Pharaon avec ses miracles, assurément il va m'écouter et m'obéir et venir vers moi et accepter ma religion, la religion d'Allah. Mais non, Moussa alayhi salam ne se base pas sur les wasa'il, sur les asbab, sur ce qu'Allah lui a accordé. Certes, c'est un intermédiaire, mais il s'en remet à Allah. C'est-à-dire que même s'il a un pouvoir extraordinaire qui lui a été accordé par Allah, il sait pertinemment qu'il a besoin de la nusrat d'Allah, de la protection d'Allah, et qu'Allah ouvre sa poitrine, lui donne les qualités pour faire cette da'wah. Et Moussa alayhi salam, donc, il avait cette qualité de s'en remettre toujours à Allah, Azza wa Jal. Et donc, ce hadith nous rappelle qu'Allah a, entre guillemets, honte de ce serviteur qui lève les mains et qui demande, et que cette personne sache et soit persuadée que jamais Allah ne laisse une personne compléter, clôturer ses doigts sans lui accorder quelque chose. Et on a déjà vu les trois points, les trois faveurs qu'Allah accorde quand on fait doigts, mais on ne va pas les répéter parce que dans un hadith, on a le nas, le texte avec explication et c'est très intéressant. Qu'est-ce que nous devons retenir pour conclure les explications concernant le fait qu'Allah est généreux? Qu'est-ce que nous devons retenir? Inna Allah karimun. Allah est généreux, mais il accorde de cette générosité, il accorde de ses faveurs encore plus les personnes qu'il aime, minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin, les gens qui sont proches d'Allah, les véridiques, les pieux et ainsi de suite, ils obtiennent encore plus de karam, de générosité d'Allah Azza wa Jal. Donc, fais de ton mieux pour faire partie de ce cercle fermé des pieux serviteurs d'Allah. Si tu fais partie des pieux serviteurs d'Allah, Allah va t'honorer. Allah va t'accorder ce qu'il n'accorde pas à, il n'accorde pas à tout le monde, ce qu'il n'accorde pas aux autres. Il accorde des choses générales à l'ensemble de ses créatures, mais ceux qu'il aime, il va accorder autre chose. Et qu'est-ce que nous pouvons espérer de la part d'Allah? Quelles sont les choses que nous devons le plus attendre de la part d'Allah? Dites-moi, par exemple, qu'est-ce qu'Allah peut nous accorder? Quel plus grand honneur qu'Allah peut nous accorder de ce dunya? Donnez-moi des exemples. Hein? Ziyadatul iman, une foi qui augmente, n'est-ce pas là un cadeau magnifique? Que de jour en jour ton iman augmente, ta dévotion de la prière elle devient de plus en plus intéressante, productive, ta concentration dans les doigts elle augmente jour après jour, ta crainte d'Allah augmente. Ça c'est un des ni'mas que nous devons souhaiter, et si nous nous comportons correctement, nous nous soumettons aux ordres d'Allah, Allah va nous honorer. Et quand Allah honore, je le répète, quand Allah honore une personne, c'est pas par les choses qui ont de la valeur pour nous. Ne croyez surtout pas que si vous vous réveillez demain millionnaire parce que vous avez hérité ou autre chose, c'est pas qu'Allah t'a honoré. Ça s'appelle pas honorer une personne. Allah accorde l'argent, les richesses aux gens qu'il aime, mais également aux gens qu'il n'aime pas. Et cette richesse permet à certaines personnes de se rapprocher de lui par les actes de bienveillance, de sadaqa, de monde, mais d'autres personnes de s'éloigner totalement de lui. Donc la richesse, ce n'est pas un signe qu'Allah t'aime. Par contre, augmentation de foi guidée, d'un sens plus général, la hidayah que nous demandons dans chaque fatiha, ihdina. Mais quand tu dis ihdina, 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 sirat al-mustaqim, Allah te guide régulièrement, en chaque salat, tu as un peu plus de ihdina, un peu plus de hidayah, c'est là un ni'ma, c'est que Allah t'a honoré parce que tu fais partie de ses pieux serviteurs. Qu'est-ce que nous pouvons espérer au plus profond de notre cœur de la part d'Allah? Autre exemple, suggestion, Hudhaifa, Abdurrahman, le pardon, qu'Allah nous accorde son pardon, bien sûr, ça fait partie de nos espoirs, c'est-à-dire les choses les plus profondes de notre cœur que nous attendons d'Allah. La guider, son pardon, quoi d'autre? Al-Ihsan, c'est-à-dire les plus hauts degrés de foi, ça rejoint ce qu'on a dit en termes de dévotion, de concentration et de prise de conscience de nos a'mal, quitter ce monde avec la foi, mourir avec iman. Et qu'Allah nous donne la hidayah de rester avec la foi, yom ba'de yom. Comme on a dit, plus de guider, que tu restes ferme de tes cinq salats. Il n'y a rien de plus honorable pour un être humain que d'être assidu à ces cinq prières. La personne qui, subhanallah, qui on est en train de voir ça dans Riyad al-Salihin à Saint-Clotilde, hadith, on doit développer qu'il n'y a pas une action qui nous permet de nous rapprocher le plus d'Allah que les actions qu'Allah a rendues obligatoires. Hadith Qudsi. Et en priorité, ce sont les salats. La grande hikmah, c'est entre chaque salat, Allah t'accorde une protection de foi. Tanha anil fahsha'i wal munkar, le verset qu'on connaît, la prière t'éloigne du turpitude et du blâmable, et le fait que la salat se répète cinq fois, c'est-à-dire ta batterie est rechargée cinq fois par jour. Un portable, tu charges combien de fois par jour? Une fois. Le soir avant de dormir, d'accord? Là, ton iman, il se recharge à travers les prières, et donc encore plus de force pour le retour vers le dunya. Encore plus de force de résistance face au haram quand tu retournes vers le dunya. Et quand Allah donne à un serviteur le tawfiq, le hidayah d'être assidu, c'est ces cinq salats, c'est qu'Allah t'a aimé, c'est qu'Allah t'a honoré, il te permet de te rapprocher de lui, et il te permet de trouver la force également de rester éloigné des péchés par l'intermédiaire de ces salats qui te donnent la force spirituelle. Donc, un des plus grands bienfaits également, comme on a dit, c'est de mourir avec Shahada, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, qu'Allah nous accorde cette qualité. Point suivant, on en est à combien de minutes là? 25? Allez, juste, on parle du titre, après on va s'arrêter. Thumma yajibu alayhi an yattasifa bil karami. Et ce sera notre point de conclusion. Si le croyant, le mu'min qui étudie le karam d'Allah, la générosité d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il réalise comment Allah est généreux, maintenant il est de son devoir d'agir avec karam dans ses relations avec les gens. C'est ce qu'on appelle, c'est un principe de at-takhalluqu bi akhlaqillah. S'inspirer de la relation qu'Allah a avec ses serviteurs pour essayer d'avoir l'essence de cette qualité de nos relations entre nous. La rahmat d'Allah, on essaie d'être clément envers les gens. Le pardon d'Allah, on essaie de pardonner quand quelqu'un nous fait du mal. Ben, la générosité d'Allah, on essaie d'être généreux, d'avoir le cœur grand ouvert avec nos semblables. Dans un hadith, le prophète alayhi salat wa sallam nous rappelle « Inna Allah karimun yuhibbul karam ». Voilà le lien. Allah est généreux et Allah aime la générosité. Aime la générosité, yani, entre vous. Allah est généreux avec vous et Allah aime voir les serviteurs faire preuve de générosité entre eux. Quand on parle de générosité, ce n'est pas karam uniquement avec la poche. Pas uniquement la générosité, tu donnes de l'argent ou à manger. Non, c'est la générosité dans les biens, si c'est possible, mais également de le comportement de l'akhlaq. De le comportement, de les relations avec les gens, faire preuve de grandeur d'âme, de bonté de cœur. Comme Allah est bon envers nous, ben, agir avec une bonté, le maximum de bonté, de karam possible, avec nos semblables. Wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq. Allah aime les nobles comportements. Allah aime ce serviteur qui a un comportement noble, qui est correct avec les gens. Wa yakrahu sifsafaha. Et Allah déteste tout ce qui est en rapport avec le mauvais comportement. Allah n'aime pas le mauvais comportement d'une de ses créatures. Et ça rejoint le ayah La yuhibbullahul jahra bis-su'i min al-qawli illa man zalim. Dans le sixième juz, Allah rappelle qu'il n'aime pas les personnes qui, c'est le sens du verset, qui proclament à voix haute tout ce qui est mal. Le fait de laisser entendre ou manifester ou de faire ouvertement quelque chose de mauvais. Tout ça fait partie des choses qui sont détestées par Allah. C'est-à-dire que nous devons comprendre que pour bénéficier encore plus de la générosité d'Allah, nous devons faire preuve de ce karam envers nous. Le hadith suivant qui rejoint Al-Mu'minu, le croyant, c'est celui qui est rirun karimun, ay la yakhda', la personne qui ne trompe pas son prochain. La personne qui n'est pas malhonnête, la personne qui ne va pas agir à l'encontre de son frère ou de sa sœur, ou al-fajiru, alors que le pécheur, il est khibbun la'imun, c'est quelqu'un qui est avare et qui trompe son prochain et qui a su'ul khuluq. Le prophète me décrit le croyant. C'est quelqu'un de généreux, d'ouvert, avec un bon comportement. Alors que le pécheur, le fajir, le pécheur, celui qui désobéit à Allah, ben, on le reconnaît, en plus de ses péchés, on le reconnaît parce qu'il a un trait de caractère qui va l'envelopper. Et qui va être son comportement dans les relations avec lui. Vous voyez la nuance là? C'est pas uniquement l'homme pieux, celui qui fait de bonnes actions. Certes, l'homme pieux, c'est celui qui fait de bonnes œuvres, il prie, il jeûne, il lit le Coran. Mais en plus de ça, il est ridrun karim, il y aura dans son mode de vie, il y aura dans son éthique même, cette générosité, ce bon comportement avec les gens. Ça, c'est le mu'min. Alors que le pécheur, certes, c'est celui qui accomplit tel péché, mais les péchés auront comme conséquence un comportement totalement négatif qui fait que les gens vont se détourner, s'éloigner de cette personne qu'Allah nous protège, qu'Allah nous accorde les meilleurs des akhlaq, les meilleurs des comportements, et que ce comportement-là soit validé et accepté par Allah pour qu'Allah nous aime encore plus. On va développer ça, il y avait des points très intéressants. On va voir ça, Inch'Allah, la prochaine fois. Quelques traits de caractère qu'Allah aime, on va juste les citer. Quand quelqu'un vous fait du bien, ben vous rendez le double du bien. Quelqu'un vous a donné un cadeau ou quelqu'un vous a fait un compliment, faites en sorte de lui retourner avec encore plus de sincérité, encore plus de qualité. Et lorsque par contre, toi, tu as accordé quelque chose à quelqu'un ou tu as honoré, tu as aidé une personne, fais en sorte que cette générosité-là, cette générosité dont tu as fait preuve, ne lui donne aucune importance. Ne pense surtout pas que j'ai été bon, j'ai été généreux. Au contraire, minimise la bonne action que tu as faite. Ne jamais penser que là, je fais quelque chose de bien, je suis quelqu'un d'honorable, là, wallah bil'aks, tu as bien agi, essaie d'oublier cette bonne action, parce que si Allah Azza wa Jal devait reconsidérer tout ce qu'il nous accordait comme bienfait, ben, assurément, Allah attendrait un retour de notre part. Donc, quand toi, tu donnes, n'attends pas de retour et ne considère pas que tu es un bienfaiteur, mais c'est qu'Allah t'a donné la possibilité de bien agir avec une de ses créatures. وَإِذَا أُسْدِيَ إِلَيْهِ كَبُرَ عِنْدَ Et quand quelqu'un agit bien avec toi, te donne quelque chose ou va t'honorer, considère cette action-là, cette bonté comme quelque chose d'énorme et sois reconnaissant. Pas quand quelqu'un vous aide, vous prête de l'argent ou autre chose, dit que oui, mais c'est tout, il aurait pu avoir un peu plus, la personne a beaucoup plus de moyens que ça, j'attendais plus. Non, ne sois pas ingrat. Quand quelqu'un t'accorde un bienfait ou te vient en aide ou te soutient moralement, psychologiquement, considère plus la valeur de cette chose que la personne a fait ihsan envers moi. Ces quelques points-là, on va essayer de développer pour comprendre c'est quoi les qualités du croyant qu'Allah Azza wa Jalla tawfiq de comprendre ces quelques paroles, qu'Allah nous protège des mauvais comportements, qu'Allah protège la umma de ces personnes qui, Wallah musta'an, détournent totalement le message de l'islam, qu'Allah protège sa religion, guide toutes les personnes et qu'Allah Azza wa Jalla nous permet de pratiquer notre din avec istiqama jusqu'à vivre ce mois de Ramadan et le faire de là, de pratiquer de la meilleure des façons. Allahumma ballighna Ramadan. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا